RFI. Grand reportage.
C'est la base électorale la plus fidèle de Donald Trump. Les évangéliques blancs ont voté pour lui à plus de 80% en 2016. Pendant ses 4 années au pouvoir, le président américain n'a cessé de prendre les décisions dont la droite religieuse américaine rêvait depuis des années. À l'approche de la présidentielle, ces ultra-conservateurs semblent toujours faire bloc derrière le président américain. Les évangéliques, base fidèle de Donald Trump, c'est un grand reportage d'Éric DeSalve.
The purpose of this meeting is to launch the evangelicals for Trump.
C'est l'un de ces grands meetings politiques comme Donald Trump les aime tant. Une particularité néanmoins, cette fois-ci, sur scène, le président des États-Unis est entouré de 7 pasteurs évangéliques. Tous ont les mains posées sur lui et prient pour sa réélection le 3 novembre prochain.
Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we present our president.
Nous sommes dans une méga church, comme les appellent les Américains, à Miami. La méga église apostolique King Jesus, du télé-évangéliste Guillermo Maldonado, ardent soutien de Donald Trump.
Father, I pray for my president and our president. I pray for you to give him boldness.
Dans cette méga église de Floride, 7000 personnes sont venues écouter leur héros, le président américain. Beaucoup sont enroulés dans des drapeaux Trump 2020 et portent sur la tête la fameuse casquette rouge Make America Great Again. Nous sommes en janvier 2020, avant la pandémie de coronavirus. Ce meeting politico-religieux sonne le lancement de la coalition des évangéliques pour Donald Trump. Le président milliardaire a fait le déplacement en personne pour soigner cette droite religieuse devenue le cœur de sa base électorale. Et le pasteur Maldonado ne s'y trompe pas. Dans sa prière de bénédiction enflammée, main sur la Bible, il appelle ses milliers de fidèles à voter Donald Trump pour lui confier un second mandat. 4 more years, 4 années de plus à la Maison Blanche, chantent en chœur les fidèles. Car ici, tous en sont convaincus, Donald Trump est leur meilleur allié. Mais comment ce président, 3 fois marié, ce président qui propose d'attraper les femmes par leur partie génitale, ce président accusé de multiples agressions sexuelles, qui achète le silence d'actrices pornographiques, qui l'accuse de relations sexuelles extramaritales, comment ce Donald Trump, incapable de citer la Bible, est-il parvenu à s'ériger en égérie des chrétiens ultra-conservateurs américains? Dans sa prière, le pasteur Maldonado offre un début d'explication. Une prière aux accents très politiques, devant 7000 fidèles, tous les mains levées, tournées vers le président Trump, tête baissée, yeux fermés, en signe de piété. Oh, il ne prétend pas être parfait, dit le pasteur, mais Seigneur, dit-il, fais qu'il soit pour nous le Cyrus de notre temps. Ce religieux compare Donald Trump à une figure oubliée de l'Ancien Testament, le roi Cyrus, roi lui aussi très imparfait, mais un roi choisi par Dieu pour sauver le peuple juif. La comparaison a été théorisée par Lance Wallnau, figure évangélique américaine. Elle est depuis reprise par toute la droite religieuse. Selon cette théorie de Cyrus, non seulement ses nombreuses imperfections ne disqualifient pas Donald Trump, mais au contraire, ses outrances sont la preuve que Dieu l'a choisi pour en faire son messager, comme il l'avait fait avec Cyrus. Explication avec André Gagné, professeur en études théologiques à l'Université Concordia au Canada, auteur d'un récent ouvrage sur le sujet, Les évangéliques derrière Trump.
Amen and amen.
Comparer Trump à Cyrus, ça légitimise l'idée que Dieu peut décider de choisir quelqu'un d'imparfait pour accomplir sa volonté. Ces évangéliques qui soutiennent Trump sont très conscients du fait que Trump n'est pas parfait. Il y a eu des figures importantes du monde évangélique telles que Franklin Graham, par exemple, qui a tenté de défendre Trump en disant que Trump n'est pas parfait. Dieu prend des individus pécheurs et il y a toutes sortes d'autres comparaisons. Par exemple, le roi David, un très grand roi de la Bible, David avait quand même commis adultère et avait tué le mari de la femme avec laquelle il avait commis adultère. Ça veut dire que ça, c'est des figures imparfaites. Dieu peut se choisir quelqu'un d'imparfait, même comme Trump, et accomplir sa volonté. Et c'est pour ça qu'on le compare à ces figures-là. On fait essentiellement une lecture typologique et analogique des textes bibliques.
Amen!
Retour dans la méga church King Jesus de Miami. C'est au tour d'une femme pasteur de mener la prière. Dans sa robe rose, montée sur ses escarpins, Paula White, blonde platine, électrise la foule comme une chanteuse pop. C'est elle, la figure évangélique la plus proche de Donald Trump. Paula White affirme être à l'origine de son retour à la religion. Entre eux, tout a commencé en 2002 par un simple coup de fil après l'une de ses interventions sur une chaîne de télévision chrétienne.
Il y a presque 19 ans, j'ai reçu un appel à l'improviste. C'était M. Trump, qui n'était encore qu'un entrepreneur. Il venait de me voir sur une chaîne chrétienne. Non seulement j'ai eu le privilège de prier pour l'accompagner dans sa destinée, mais je l'ai aussi entouré de personnes de foi, jusqu'à le voir devenir le 45e président des États-Unis.
Nommée conseillère spirituelle personnelle du président, Paula White a désormais son bureau à la Maison Blanche. C'est elle qui a eu l'honneur de prononcer la prière lors de l'investiture du président après sa victoire. Pendant la campagne en 2016, Paula White avait réussi à fédérer, malgré leurs divergences, plusieurs grands noms de l'évangélisme américain derrière la candidature de Donald Trump. Pourtant, Paula White est loin de faire l'unanimité dans le milieu. Certains évangélistes l'accusent même d'être une hérétique, un charlatan, car Paula White appartient à un courant très contesté, la théologie de la prospérité. Un télé-évangélisme pur produit du capitalisme américain au mantra très simple. Les fidèles doivent enrichir leur pasteur pour recevoir en retour une rétribution financière de Dieu. C'est le message que Paula White envoie tous les jours ou presque à ses fidèles en leur demandant de lui envoyer de l'argent lors de ses interventions sur les chaînes câblées évangéliques. Un argent que la loi américaine exempte de toute imposition.
Many of us bring one day.
Beaucoup donnent une journée de salaire, certains une semaine, d'autres donnent un mois de salaire, parce que nous savons que tout revient à Dieu. Pour votre premier don de $50 ou plus, je vous donnerai un exemplaire de mon livre et un objet pieux. Mais si vous donnez $75 ou plus, alors je vous donnerai en plus un calendrier très spécial avec un rappel de toutes les promesses de Dieu tout au long de l'année. Car Dieu a un projet de vie pour vous, que ce soit pour vos amis, vos finances, vos rêves et tout dans votre vie. Alors cliquez vite sur ce lien pour honorer Dieu avec une première donation.
Paula White est un pasteur millionnaire. Elle vit dans un ranch immense en Floride, n'hésite pas à s'afficher au volant de sa Lamborghini décapotable sur son compte Instagram ni à voyager en jet privé. Le luxueux train de vie de la sulfureuse conseillère spirituelle du président américain lui a valu de faire l'objet d'une enquête du Sénat américain en 2007 pour détournement de fonds. Mais selon l'universitaire André Gagné, Paula White et Donald Trump avaient tout pour s'entendre.
Paula White, c'est une outsider qui a réussi à percer. Donald Trump, c'est un outsider politique. Hein? C'est intéressant de voir comment deux outsiders ont réussi à s'allier pour finalement arriver à influencer politiquement les États-Unis en ralliant des pasteurs qui, finalement, ne sont pas nécessairement du même point de vue théologique, mais ils ont une cause commune. Hein? Les valeurs judéo-chrétiennes, l'avortement, l'opposition aux droits des personnes LGBTQ, c'est ça que constitue la droite chrétienne.
Cette alliance entre Donald Trump et la droite religieuse ressemble à un échange de bons procédés. En 2016, 81% des évangéliques blancs ont voté pour lui. La proportion semble aujourd'hui équivalente au bout de 4 années à la Maison Blanche. Car dans son exercice du pouvoir, le président a scrupuleusement soigné cette droite religieuse, comme il le rappelle ce jour-là dans la méga church de Miami.
Les évangéliques et les chrétiens de toute dénomination savent qu'ils n'ont jamais eu meilleur défenseur que moi à la Maison Blanche. Jamais. Nos opposants veulent éliminer Dieu de l'espace public pour pouvoir imposer leur agenda extrémiste, anti-religion et socialiste. Mais nous, Dieu est de notre côté. Le 3 novembre 2020, c'est la date. Nous allons remporter une nouvelle victoire monumentale. Une victoire pour Dieu et la famille, pour la foi et la liberté.
Trump a réussi à les embobiner. En même temps, il y a vraiment quand même clairement un rapport transactionnel parce que Trump écoute cette base électorale. Toutes les décisions politiques sont influencées par la droite chrétienne. Trump n'a pas le choix. Pour rester au pouvoir, il n'a même pas le choix. Donald Trump dépend énormément de cette base évangélique. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a environ 95 millions d'évangéliques. Ce n'est pas tous ces évangéliques qui ont voté pour Trump ou qui vont encore voter pour Trump. Aux dernières élections, ça correspond peut-être à 10 % de la population américaine qui aurait voté pour Trump. Ça veut dire qu'ils ont quand même, avec 10 % de la population, réussi à placer Donald Trump. Il ne faut pas sous-estimer cette base de la droite chrétienne. Il ne faut pas parce qu'ils ont une capacité de mobilisation phénoménale.
Dès le jour de mon élection, la guerre du gouvernement contre la religion s'est brutalement arrêtée.
Et dans la sphère évangélique américaine, Donald Trump compte un autre soutien de poids. Robert Jeffress, pasteur de la First Baptist Church de Dallas, chante les louanges du président presque tous les jours sur Fox News, devenu le principal canal de propagande trumpiste aux États-Unis. Et quand on demande au pasteur Jeffress pourquoi les évangéliques blancs soutiennent aussi fermement Donald Trump, le Texan répond en trois points, sans hésiter.
I think his executive order on religious liberty, his move of the embassy.
C'est en raison de ses mesures pour la liberté religieuse, du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et de ses nominations de juges conservateurs. On est engagé dans une bataille. Ce n'est plus juste une bataille entre démocrates et républicains, mais c'est une bataille entre le bien et le mal. Regardez les démocrates, tous leurs candidats sont pour l'avortement sans limite. Nous, on pense que ce n'est pas seulement mauvais, c'est barbare. C'est pour ça qu'on a besoin d'un président comme Donald Trump, qui est pro-vie, pro-religion et du bon côté de Dieu. Et je l'ai dit au président, vous aurez une victoire encore plus large chez les évangéliques en 2020 qu'en 2016. And I've told the president he's going to have an even larger margin of victory among evangelicals in 2020 than he did in 2016.
Très proche de Donald Trump, le pasteur Jeffress est membre de la White House Faith Initiative, une structure créée par l'administration Trump pour conseiller le président sur les questions religieuses, notamment en matière de politique étrangère. Comme la plupart des évangéliques américains, Robert Jeffress est un chrétien sioniste. En 2018, il était d'ailleurs l'un des deux pasteurs invités à prononcer la prière inaugurale de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Un événement constamment cité comme l'un des plus marquants du mandat Trump par les évangéliques, qui le lie à une prophétie biblique annonciatrice, selon eux, du retour de Jésus sur terre, comme l'explique le chercheur André Gagné.
C'est extrêmement important, en fait, pour eux, parce que Israël est considéré comme étant le peuple élu. On se base sur, bien sûr, une lecture des textes de l'Ancien Testament pour arriver à cette conclusion-là. C'est pour ça qu'il y a un soutien indéfectible à Israël face à ses ennemis, face à l'Iran, par exemple. Parce que dans la pensée évangélique, ceux qui bénissent Israël seront bénis par Dieu et ceux qui maudissent Israël seront maudits par Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce d'alliance avec Israël pour s'assurer que Dieu va continuer à bénir les États-Unis. Encore une fois, il y a toute une vision eschatologique autour d'Israël. Hein? Lorsqu'on parle d'eschatologie, on parle d'une idéologie qui a rapport à la fin des temps et de ce qu'il croit être le second retour du Christ sur terre pour établir un royaume éternel. C'est-à-dire qu'ils font un peu une lecture géopolitique de ce qu'ils voient comme étant des prophéties bibliques. En même temps, ils sont en fait très antisémites, parce que ce fantasme eschatologique, c'est aussi dans la perspective de convertir les Juifs à la religion chrétienne. Parce que selon leur lecture des prophéties bibliques, les Juifs, dans les derniers jours, reconnaîtront Jésus-Christ comme leur Messie.
Et selon André Gagné, c'est toute l'administration Trump qui est sous influence de cette droite religieuse américaine, avec des hommes comme bien sûr Mike Pence, un vice-président qui se définit lui-même comme chrétien, conservateur et républicain dans cet ordre. Mais également Mike Pompeo, secrétaire d'État, lui aussi évangélique convaincu.
Il dit qu'il mène sa politique en s'appuyant sur la Bible. Il consulte régulièrement la Bible est près de son chevet, il lit la Bible. À un moment donné, en 2015, lors d'une espèce de rencontre à l'intérieur d'une église, il disait attendre avec anticipation ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Hein? C'est ce qu'on appelle dans les milieux évangéliques « the rapture ». C'est un texte qu'on retrouve dans une des épîtres du Nouveau Testament, où on nous dit qu'il y a à un certain temps que le Christ va revenir chercher les siens sur terre pour les amener avec eux, les enlever, hein, the rapture, l'enlèvement. Et ça, l'enlèvement de l'Église, pour certains évangéliques, c'est vu comme un événement de la fin des temps. Et Mike Pompeo croit à ça. Il le dit sans s'en cacher, voyez-vous. Et il est le secrétaire d'État des États-Unis. C'est certain que ça façonne sa manière de gérer la politique.
Mais au-delà de sa politique étrangère, ce qui vaut à Donald Trump le soutien indéfectible des évangéliques, c'est aussi sa politique anti-avortement. En 4 ans, le président aura nommé près de 300 juges fédéraux à vie, des juges conservateurs et jeunes, capables de transformer durablement la société américaine.
On a des juges qui sont très jeunes. Ils sont là pour au moins 40 ans. L'extrême gauche essaye de remplacer la religion par l'État et Dieu par le socialisme. Nous, on croit en la liberté religieuse et dans le droit à la vie.
Et avec la nomination probable d'un troisième juge conservateur par Donald Trump à la Cour suprême, le droit à l'avortement n'a jamais été aussi menacé depuis sa légalisation avec l'arrêt Roe v. Wade en 1973. Dans cette bataille de l'avortement, le Parti démocrate est présenté par les pasteurs évangéliques proches du président comme le parti anti-Dieu. Un discours qui creuse encore un peu plus la division entre ces deux Amériques, explique André Gagné.
Vraiment, on caractérise le Parti démocrate sous emprise satanique ou démoniaque. Et c'est encore une fois une manière de dire que ce parti n'est pas à la hauteur pour diriger le pays. Quand on voit ce genre de rhétorique émerger de pasteurs influents qui ont des milliers d'adeptes, il y a une atmosphère de peur et de crainte qui se crée parmi ces groupes ultra-conservateurs qui vont se dire « ben on doit se défendre ». Voyez-vous, il faut prendre les armes s'il le faut, et on a la Constitution derrière nous pour conserver nos armes et se défendre. La rhétorique qui est utilisée, une rhétorique de guerre, hein, de mobilisation, de conflit spirituel, de guerre spirituelle, de démonisation de l'adversaire, ne fait que, justement, jeter de l'huile sur le feu. Et il ne faudrait pas s'étonner de les voir justement se camper du côté de ceux qui entameraient des actions violentes. Parce qu'ils ont préparé leur auditoire à cette éventualité et ça fait des années qu'ils en parlent.
En attendant, tous les États-Unis sont suspendus au bulletin de santé du médecin de Donald Trump depuis l'annonce de son test positif au coronavirus. Le président a sans doute contracté la maladie lors de la cérémonie de présentation sans masque à la Maison-Blanche de sa candidate pour la Cour suprême, Amy Coney Barrett. Une cérémonie à laquelle sa conseillère spirituelle a participé, sans masque elle aussi. Sur Internet, Paula White organise depuis des prières pour le président américain et la pasteur de la Maison Blanche l'assure, Donald Trump guérira du coronavirus par la force de ses prières. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Les évangéliques, base fidèle de Donald Trump, un grand reportage d'Éric De Salve, réalisation Pierre Chaffangeon. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.